Oui, bonjour. Que faites-vous lorsque l'enfant est amené à la demande des parents et non pas suite à sa demande à lui?
Alors, déjà,
Il est un peu forcé, si vous voulez.
Oui. Alors, lorsqu'il s'agit du tout petit enfant, bon, là, c'est la demande des parents. Il est bien évident que, comme je vous citais tout à l'heure, l'exemple de ce petit garçon de 2 ans, c'est pas lui qui a manifesté le désir d'aller voir un professionnel. Lorsqu'ils sont plus grands, et alors, si vous voulez, bon, il y a deux possibilités. En règle générale, donc c'est le parent qui va suggérer la démarche. Alors, soit il prend rendez-vous, il n'en parle quasiment pas à son enfant avant, et ils arrivent comme ça. Alors là, ça, c'est le procédé le moins bon qui soit, parce que l'enfant, en fait, il sait même pas pourquoi il vient. Souvent, les parents disent « Oui, on m'a dit de venir chez vous parce que ça va pas, il faut faire quelque chose ». Et là, d'emblée, le travail s'annonce mal. Maintenant, il y a d'autres parents qui font les choses mieux ou qui arrivent à comprendre. C'est-à-dire qu'avant le rendez-vous, ils vont expliquer à leur enfant chez qui ils vont, en quoi ça consiste globalement et quel est le sens de la démarche. Alors là, bon, ce sont les meilleures chances pour que ça réussisse. Il y a un petit peu tous les cas de figure. Mais c'est vrai qu'en règle générale, dès l'instant où, si un enfant est amené de force, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, où l'enfant ne voulait, il voulait même pas rester dans le cabinet. Il hurlait, il se roulait par terre, il tapait dans tous les sens. Là, en règle générale, c'est pas la peine d'insister. Ça sert à rien de toute façon. Et mieux vaut attendre que l'enfant soit prêt. De toute façon, s'il n'est pas prêt, aucun travail ne peut être envisagé.
Bonjour.
Bonjour.
On lit de plus en plus d'articles et de choses sur l'impact des événements qui ont lieu pendant la grossesse de la maman et qui génèrent parfois, si ça a trait au contexte de la conception même de l'enfant ou de traumatismes qui ont touché la mère pendant la gestation, est-ce que vous avez... des cas qui se sont présentés où un enfant présente un symptôme qui vraisemblablement était lié à une période antérieure à sa naissance, et comment vous arrivez à faire émerger par la bouche de l'enfant ou par sa mère qui n'a peut-être pas envie d'en parler des événements qui peuvent être à l'origine du problème que rencontre l'enfant.
Oui, alors là ça correspond tout à fait à cet exemple que je vous ai cité tout à l'heure, comme ça évite de rentrer dans trop de détails. Oui, effectivement, cette petite fille donc de 5 ans qui est née avec une pathologie cardiaque donc qui s'était mise en place durant la période intra-utérine, et oui, effectivement, si on tient compte du fait que cette petite fille donc est du sexe féminin, elle a donc mis en place pendant la période donc intra-utérine, on va dire, une problématique de cœur dans la relation à la mère. Ce qui déjà annonce ce qui s'est passé. Et lorsqu'effectivement sa mère a entamé sa cure, effectivement, tout de suite, il est ressorti qu'une de ces grandes problématiques de cette femme était dans sa relation affective à sa mère. Et que par voie de conséquence, le schéma a été reproduit pendant la grossesse, avec le signal, on va dire, de la part de l'enfant à venir, que la problématique devenait très lourde et qu'il fallait envisager de faire quelque chose pour les générations à venir. Parce que le symptôme se serait alourdi de plus en plus. Voilà.
Oui, bonjour. Vous avez un mode de pensée très théorique et très adulte. Et j'aimerais savoir comment vous mettez au niveau des enfants qui pour eux, c'est assez difficile de comprendre les complexes de papa et de maman. Et savoir comment vous mettez au niveau des enfants pour qu'ils comprennent tout ça. Est-ce que vous introduisez des jeux, des dessins, des jouets, voilà. ma question.
D'accord. Alors, c'est vrai que, bon, là, je suis peut-être théorique, mais bon, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du tout comme ça quand je suis dans mon cabinet. Je suis beaucoup plus décontractée. Et bon, et je pense parvenir pas trop mal à me mettre à la portée des enfants. Alors, en ce qui concerne les supports, disons qu'il y en a qui sont à disposition, mais ils font ce qu'ils veulent. Je mets à disposition des choses de base. Ils peuvent dessiner, écrire. Il y a quelques jouets, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Non, je mets... Ils peuvent effectivement effectuer un certain nombre d'actes. Bon, il y a du matériel comme effectivement du scotch, une paire de ciseaux, bon, des choses comme ça, mais pas de matériel véritablement orienté. J'ai envie de dire, j'ai du matériel de bureau tout court. Et puis, mais ils font ce qu'ils veulent. Je ne les sollicite en rien. Je ne demande jamais à un enfant s'il veut me faire un dessin ou s'il veut écrire quelque chose. J'en ai qui le font, j'en ai qui le font jamais. J'en ai qui restent assis par terre, qui sont à l'autre bout du bureau. Ils se manifestent comme ils le veulent, pour la bonne et simple raison que l'enfant a payé, même si ça passe par l'intermédiaire des parents et que la séance lui appartient à part entière. Donc il fait ce qu'il veut, et comme il veut et quand il veut. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Même si ce sont des questions qui, a priori, n'ont aucun lien avec ce que je viens de dire, mais concernant les enfants et la psychanalyse en général, voire les adolescents.
Bonjour.
Bonjour.
Je me posais la question de savoir... S'il y avait une démarche avec les enfants pour les aider à comprendre ou mettre en évidence, par exemple, quelque chose de leur inconscient, comme un processus de conscientisation, est-ce que ça peut se faire avec un enfant ou est-ce que c'est réservé qu'aux adultes ?
Vous voulez dire par là ce processus suivant lequel, à un moment donné, on va interpréter à l'adulte sa position inconsciente. Il est vrai que chez l'enfant, on peut pas formuler les choses de la même manière. Déjà parce que ça mettrait en place effectivement une théorie. Beaucoup trop importante. Moi, ce que je fais souvent, c'est que ce message, je le fais passer par l'intermédiaire du parent. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, tout comme pour un adulte, je vais donner une interprétation, je vais le faire, je vais la donner, mais à ce moment-là, je vais la donner à l'adulte, à la mère ou au père ou à un grand-parent, la personne qui accompagne l'enfant, et en présence de l'enfant. Et je trouve que comme ça, ça marche bien. Oui, en fait, je fais passer le message de cette interprétation par l'intermédiaire du parent.
Est-ce que ça constitue pas un danger dans la mesure où l'enfant peut se sentir trahi si jamais vous révélez, par exemple, une haine qu'il aurait vis-à-vis de son père, ou ne serait-ce qu'une jalousie qu'il voudrait conserver intime et dont peut-être il ne voudrait rien savoir? Ça me paraît extrêmement particulier avec les enfants. Ça doit peut-être poser des difficultés, le fait d'en parler aux parents. Comment ça peut se passer un petit peu ? Est-ce que c'est possible ? Je me pose ces questions.
Du fait que c'est sur une interprétation en fin de séance... Il s'agit que ce soit pour l'enfant une ouverture. C'est-à-dire que si effectivement, sur sa séance, est ressorti de façon, dans son discours inconscient, comme vous le dites, une haine ou des sentiments plutôt négatifs, je ne vais pas en parler. Ça, c'est ma part de travail. Mais moi, je suis là pour permettre à l'enfant d'aller mieux, donc de trouver en fait des solutions à ses difficultés. Donc, de façon à peu près systématique, je vais évoquer sur la fin de la séance quelque chose qui sera positif. Je ne vais pas parler de quelque chose de négatif. Il faut que ça aille mieux. Il ne faut pas que ça aille plus mal. Enfin, que ça aille aussi mal, voire même plus mal. Donc, en ce sens, je ne vais pas évoquer ce genre de choses.